J'ai ouvert la Bible, mais n'y ai point trouvé de lumière. J'ai voulu entrer en communion avec Dieu, mais tous mes efforts ont été vains. Et savez-vous quelle était la cause de ce déplorable état spirituel? J'avais prié avec mollesse et langueur. Oui, mes frères, me voici devant vous, confessant mon péché, je reconnais que lorsque mon âme a été en souffrance, j'avais à quelque degré négligé la prière. Aux chrétiens, voulez-vous être heureux? Priez beaucoup. Voulez-vous être victorieux du monde? Priez toujours davantage. Qui cesse de prier, cesse de combattre. C'est la prière qui préserve de la rouille les armes de l'enfant de Dieu. Si les 12 apôtres eux-mêmes revenaient à la vie, disait un chrétien éminent, et que, pour jouir de leurs entretiens, vous négligeassiez vos dévotions particulières, ils auraient porté le plus grave préjudice à vos âmes. La prière est le navire qui revient au port chargé du plus riche frais, c'est le terrain qui rapporte à celui qui le cultive la plus abondante moisson. Mon frère, tu te plains de ne pas jouir d'une communion plus intime avec Dieu, mais à qui la faute, je te le demande, si ce n'est à toi, qui le matin prends à peine le temps, avant de courir à tes affaires temporelles, de prononcer, à la hâte, 2 ou 3 mots de prière, et qui rentrant le soir fatigué de corps et d'esprit, n'a pour ainsi dire, à consacrer à Dieu que les instants de rebut de ta journée? Et ce que dit aux individus, je le dis également aux églises. Si aujourd'hui il y a si peu de vie dans nos troupeaux, c'est parce qu'il n'y a pas plus de prière? Pour mon compte, j'ai la plus triste opinion des églises qui ne prient pas. Si je vais le dimanche de lieu, de culte en lieu de culte, je vois partout des auditoires considérables, mais si je vais dans la semaine, aux réunions de prière, je n'y trouve qu'une 12aine de personnes. Dieu peut-il nous bénir? Dieu peut répandre son esprit sur nous, tant que les choses sont en cet état? Sans doute, il pourrait faire, mais ce ne serait pas selon l'ordre de ses dispensations, car il dit expressément à Sion qu'elle enfantera des fils quand elle sera en travail d'enfant, Ésaïe 56. 8 mes frères, emportez dans vos serrures cette pensée qu'il nous faut plus de prière. Allez, dites à votre pasteur que son troupeau ne prie pas assez. Engagez vos amis à prier avec vous. Dussiez-vous même être seul, établissez une assemblée de prière, et si on vous demande combien de personnes y assistaient, répondez sans hésiter, nous étions 4, car avec moi il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et nous avons joui ensemble d'une riche et intime communion. Si nos églises ne répondent devant Dieu, comme des flots de supplications, je ne sais en vérité ce qui adviendrait d'elles. Oh ! Puisse le Seigneur nous réveiller tous et nous exciter à crier vers lui, car alors la victoire sera à nous. Plus à Dieu, mes bien-aimés, que je puisse en cet instant même ranimer dans vos cœurs, par ma parole, la flamme vacillante de la lumière, en sorte qu'en quittant ce lieu de culte, vous allassiez, chacun de votre côté, incendiez pour ainsi dire vos familles, vos églises, vos alentours, jusqu'à ce qu'enfin l'église de Christ tout entière, gagnée de proche en proche, par ce saint embrasement, et s'offrant à Dieu en sacrifice vivant et saint, fit monter vers son trône comme une fumée d'adoration et de louange. En résumé, mes frères, voici ce que je vous dis si vous priez, vous avez dans ce fait même une preuve que vous êtes chrétien, moins vous priez, plus vous avez de raisons de suspecter votre christianisme, et si vous aviez eu le malheur de renoncer complètement à la prière, ce serait un signe que votre âme a cessé de respirer, ou plutôt qu'elle n'a jamais eu, le souffle de la vie. Mes dernières paroles sont pour les inconvertis. Oh ! Pécheur, que ne donnerais-je pas en cet instant pour me trouver ailleurs que dans cette chair, car si c'est déjà une chose solennelle, pour un prédicateur de l'Évangile, que de s'adresser aux croyants, qu'est-ce donc que d'avoir affaire avec vous? D'un côté, nous craignons de vous encourager par nos paroles à compter sur vos propres forces, et de l'autre, nous tremblons à l'idée de vous laisser dormir, du fatal sommeil de l'indolence et d'une fausse sécurité. Je crois qu'il n'est pas de fidèles ministres du Seigneur qui ne se sentent parfois embarrassés quant à la manière dont il convient de vous faire entendre la vérité. Non pas que la nécessité de vous annoncer l'Évangile soit pour nous un sujet de doute, mais nous voudrions pouvoir vous l'annoncer de telle sorte que vos âmes fussent gagnées à Christ. Pour ce qui me regarde personnellement, je puis me comparer avec vérité à une sentinelle qui, debout à son poste, est accablée de lassitude. Avec quelle énergie sa volonté se débat contre l'infirmité physique qui menace de la vaincre. Le souvenir de sa responsabilité l'excite à de nouveaux efforts. Ce n'est pas le vouloir qui lui manque, c'est le pouvoir. Et moi de même, sentinelle du Seigneur, je souhaite ardemment d'être fidèle, mais en même temps le sentiment de mon incapacité pèse lourdement sur moi. Oh ! Veuille le Saint-Esprit me venir en aide, et non seulement à moi, mais à tous mes collègues dans le ministère, afin que les uns et les autres nous nous appliquions à exalter, non point la liberté humaine ou la justice propre, mais uniquement la grâce qui est en Jésus. Maintenant donc, aux pécheurs qui m'écoutez, je vous déclare hautement, solennellement, qu'une âme qui ne prie point est une âme qui n'a point Christ. Oui, j'en atteste le Dieu vivant, vous qui ne connaissez rien de la prière du cœur, êtes encore sans Dieu, sans espérance, étrangers à la République d'Israël. Vous qui ne savez pas ce que c'est que de gémir sur vos péchés, êtes complètement dépourvus de la piété qui sauve. Et souffrez que je vous demande si vous avez jamais sérieusement réfléchi à l'épouvantable état dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes éloignés du Seigneur, par conséquent le Seigneur est irrité contre vous, car sa parole nous déclare que le Dieu fort s'irrite tous les jours contre le méchant. Oh, pécheur, lève tes yeux en haut. Ne vois-tu pas le regard courroucé de l'Éternel qui te suit en tous lieux? Oh, je t'en supplie, pour l'amour de toi-même, songe au sort qui t'attend, si tu vis et meurs sans prière, et ne te persuade point que la misérable prière que tu comptes peut-être prononcer à ton lit de mort te sauvera. De telles prières, je ne crains pas de dire, sont, pour la plupart, de lugubres comédies et rien de plus. C'est une monnaie qui n'a pas cours dans le ciel, car elle est marquée au coin de l'hypocrisie, et faite de vil métal mondain qui m'écoutait, prenez donc garde. Que ferez-vous quand la fin viendra? Il serait à désirer pour vous que la mort fût un éternel sommeil, mais elle ne l'est point. L'enfer est une réalité, réalité plus terrible qu'on ne saurait dire. Je ne veux pas chercher à émouvoir vos imaginations en vous décrivant les tourments des damnés. Dieu veuille que vous ne les connaissiez jamais par expérience. Oh, qui pourrait concevoir les souffrances de cet infortuné qui, du milieu de flammes dévorantes, s'écrie avec angoisse que n'ai-je une goutte d'eau pour rafraîchir ma langue? Voyez ses lèvres brûlantes, son visage contracté par l'excès de sa douleur. Mais encore, une fois, je ne veux point vous décrire cet horrible tableau. Qu'il me suffise de te dire, pauvre pécheur, que l'enfer des enfers sera pour toi la pensée de l'éternelle durée de ton supplice. Lorsque les damnés élèvent leur regard vers le trône de Dieu, ils voient inscrite sur ce trône cette irrévocable sentence. Pour toujours? Lorsqu'ils secouent les chaînes brûlantes de leurs tourments, ces chaînes même leur crient pour toujours? Lorsqu'ils poussent des hurlements de désespoir, les échos infernaux leur répondent pour toujours. Ô lamentable pensée! Être en enfer et y être pour l'éternité. Mes frères, voulez-vous échapper aux peines éternelles? Voulez-vous être au nombre des bienheureux? Sachez que la route du ciel ne se trouve que par la prière. Invoquez le Seigneur Jésus, demandez le Saint-Esprit, approchez-vous du trône de la grâce. Retournez, retournez, et pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Je suis vivant, dit l'Éternel, que je ne prends point plaisir à la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se détourne de son mauvais train et qu'il vive. Le Seigneur est miséricordieux et plein de compassion. Allons donc à lui en disant il guérira nos rébellions, il nous aimera de bon séjour, il nous pardonnera abondamment pour l'amour de son Fils. Oh! Si je pouvais en ce jour gagner une seule âme, je serais satisfait. Si j'en gagnais 20, quelle ne serait pas ma joie? Plus j'attirerai d'âmes à Christ, plus nombreuses seront les couronnes qui ceindront mon front. Mais qu'ai-je dit? Non, Seigneur Jésus, elles ne ceindront point mon front, car je les jetterai toutes à tes pieds, en te disant non point à moi, ô Éternel, non point à moi, mais qu'à ton nom soit la gloire, au siècle des siècles. Le ciel et l'enfer, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob, et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, 11,12 ce soir, mes chers auditeurs, j'espère vous encourager à chercher le chemin du ciel. Ce soir aussi j'aurai à exprimer devant vous de très rudes vérités concernant le sort de ceux qui seront jetés dans l'abîme de la perdition. Ces deux sujets, je vais tâcher de les traiter avec l'assistance de Dieu. Mais auparavant, laissez-moi vous supplier, pour l'amour de vos âmes, de peser avec soin ce que vous allez entendre. Voyez si mes paroles sont « oui ou non » selon la vérité de Dieu. Si elles ne le sont pas, rejetez-les entièrement, mais si elles le sont, prenez garde de quelle manière vous les écoutez, car aussi vrai que vous comparaîtrez un jour devant Dieu, le grand juge du ciel et de la terre, aussi vrai vous ne sauriez mépriser impunément la voix de son serviteur, la voix de son évangile. Les versets que je vous ai lus renferment deux idées. La première est d'une douceur infinie, et je me plais à y arrêter mon esprit, La seconde est terrible au plus haut degré, mais l'une et l'autre étant également vraies, l'une et l'autre doivent être prêchées. La première idée de mon texte est contenue dans ces mots « Je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table, au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob ». L'autre, sombre, menaçante, effroyable, est ainsi formulée « Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, il y aura là des pleurs et des grincements de dents ». Reprenons la première de ces idées. Voici une glorieuse promesse, plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à circonflexe table, au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. J'aime ces paroles, parce qu'elles me disent ce qu'est le ciel, parce qu'elles m'en laissent entrevoir les charmes. Elles m'apprennent, tout d'abord, que c'est un lieu où je serai assis, c'est-à-dire où je me reposerai. Quelle douce pensée! Qu'elle est douce surtout pour le travailleur, pour celui qui mange son pain à la sueur de son visage. Souvent, en essuyant son front humide, il se demande avec tristesse s'il n'aura jamais ni trêve ni relâche. Ou bien le soir, en se jetant brisé sur sa couche, son cœur laisse échapper ce cri d'angoisse « N'y a-t-il donc point un lieu où je pourrais me reposer, où mes membres fatigués ne seront plus contraints d'agir, où je trouverai enfin la paix après laquelle je soupire ?» Oui, enfant du travail et de la peine, oui, il est un heureux séjour où peine et travail sont inconnus. Au-delà de la voûte azurée, il est une cité belle et radieuse, ses murs sont de jaspe, sa lumière est plus éclatante que de soleil. Là, les méchants ne tourmentent plus personne et ceux qui ont perdu leur force se reposent. Là habitent des esprits immortels qui sont pour jamais à l'abri de la fatigue. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont plus ni rude labeur, ni tâche excessive à accomplir. Que l'homme de loisir se plaise à envisager le ciel comme un lieu où son activité trouvera un constant aliment, je le conçois, et je suis persuadé qu'il ne sera pas déçu dans son attente. Mais pour le travailleur, et par ce mot, j'entends tout homme qui travaille, soit de son intelligence, soit de ses mains, quelle délicieuse, quelle consolante perspective que celle d'un éternel repos. Au bonheur. Bientôt cette voix, si souvent épuisée par de longs efforts, pourra se taire, bientôt ses poumons fatigués ne s'exerceront plus au-delà de leur pouvoir, bientôt ce cerveau excité ne sera plus harcelé par des pensées sans nombre, bientôt, paisiblement assis au banquet de Dieu, je me reposerai de mes travaux. Oh ! Fils et filles d'Adam qui fléchissez sous le poids de la vie, prenez courage. Au ciel, vous n'aurez plus à tracer de pénibles sillons dans un sol infertile, vous n'aurez plus à vous lever matin, à vous, coucher tard et à manger le pain de douleur. Vous n'aurez plus ni fardeau, ni soucis, ni agitation, tous vous serez paisibles, riches, heureux. Les mots de labeur, de fatigue, de souffrance n'existent même pas dans la langue du ciel. Et remarquez dans quelle illustre société les élus se trouveront. Ils seront assis, nous est-il dit, avec Abraham, Isaac et Jacob. Ces paroles me semblent réfuter de la manière la plus positive l'opinion de certains chrétiens qui pensent que dans l'autre vie on n'aura pas la faculté de se connaître. En effet, puisqu'il nous est déclaré ici en toutes lettres que nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob, ne devons-nous pas nécessairement en conclure que nous connaîtrons ces patriarches et par conséquent aussi les autres habitants du ciel? On raconte qu'une digne chrétienne, avancée en âge, demanda à son mari, « Au moment de mourir mon ami, penses-tu que tu me reconnaisses quand tu viendras dans la gloire? Si je te reconnaîtrai, répondit celui-ci, ne t'ai-je pas toujours connu ici-bas? Et crois-tu donc qu'au ciel je serai moins clairvoyant ? Ce raisonnement me paraît sans réplique. De même que nous avons connu ici-bas, de même nous connaîtrons là-haut ? Pour ma part, j'ai la douce assurance que lorsque, par la grâce de Dieu, je poserai mon pied sur le seuil du ciel, les bienheureux amis qui m'y ont précédé viendront me prendre par la main et me diront « Salut, bien-aimé ». Te voici enfin. Les proches retrouveront leurs proches, les amis leurs amis. Tu retrouveras ta pieuse mère, toi, mon cher auditeur, qui pleure encore sur elle, si toutefois tu marches sur les traces de Jésus, il me semble l'avoir venant, à ta rencontre à la porte du paradis, et quoique sans doute les liens de la nature auront perdu beaucoup de leur force, je ne puis me défendre de la pensée que son visage brillera d'une joie nouvelle lorsque, s'avançant vers le Seigneur, elle lui dira « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Marie, tu reconnaîtras ta femme. » Mère, tu reconnaîtras ces chers petits êtres, dont tu suivis avec angoisse la longue agonie, et sur lesquels tu entendis tomber, avec les froides mottes de terre, ces terribles paroles, l'argile à l'argile, la cendre à la cendre, la poudre à circonflexe la poudre. Oui, tu les retrouveras, Tu entendras encore leur voix, chérie. Tu sauras que ceux que tu as tant aimés, Dieu les a aimés mieux encore que toi. Ah! Qu'il me semblerait triste et glaçant le monde à venir si je ne devais ni connaître ni être connu. En vérité, il n'aurait pour moi que bien peu d'attrait. Mais quelle douceur, au contraire, dans la pensée que le ciel est la réalisation parfaite de la communion des saints, et qu'entre les croyants de tous les temps et de tous les pays, il s'établira pour l'éternité des relations étroites et personnelles. Souvent, je me plais à anticiper sur le bonheur que j'éprouverai à connaître Zaï. Il me semble qu'à peine arrivé à la cité céleste, je demanderai à le voir, parce qu'il a parlé de Jésus plus qu'aucun autre prophète. Il me semblait aussi que je m'empresserais de chercher au milieu de la foule George Whitefield, ce grand serviteur de Dieu, qui avec un zèle digne d'un esprit angélique, dépensa toute sa vie en prêchant le salut. Oh ! Oui, nous aurons une société choisie dans le ciel. Et cependant toute distinction humaine sera abolie, riche et pauvre, savant et ignorant, ministre et laïque. Nous fraterniserons tous ensemble. J'ai ouï raconter qu'une dame, visitée sur son lit de mort, par un ministre de l'Évangile, lui posa cette étrange question : ne pensez-vous pas qu'il existe dans le ciel de lieux bien distincts pour les différentes classes de la société ? J'avoue que je ne puis endurer l'idée de vivre éternellement en compagnie de ma servante. À cela, le ministre répondit : ne vous mettez pas en peine à ce sujet, madame, car aussi longtemps que ce diabolique orgueil existera dans votre cœur, vous n'avez point à craindre d'aller au ciel. Il disait vrai. Non, l'orgueil n'entrera pas dans le ciel. Il faut que nous nous abaissions nous-mêmes, que nous voyions dans tout homme un frère, que nous sentions qu'aux yeux de Dieu nous sommes tous égaux, avant de pouvoir espérer d'être admis dans la gloire. Quant à moi, je bénis mon Dieu de ce qu'au banquet céleste il n'y aura qu'une seule table. Le juif et le gentil s'asseoiront côte à côte, le grand et le petit paîtront dans le même pâturage tous, nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les paroles que nous méditons ont une signification plus douce et plus profonde encore. À en croire certains esprits étroits, le ciel serait un lieu de dimension fort restreinte, auquel ne trouveraient accès que les seuls chrétiens qui fréquentent leur lieu de culte. J'avoue qu'un ciel aussi mesquin m'est antipathique, et j'aime au contraire à lire dans les Écritures qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. De ce qu'il est écrit dans l'Évangile, la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent, on a souvent conclu que le ciel sera moins peuplé que l'enfer. Cette opinion me semble inadmissible. Comment ? La part de Christ serait moins grande que celle du diable ? Satan l'emporterait sur Christ. Non, cela ne peut pas être. Note du Trad. De la troisième édition, nous savons que l'argument employé ici par l'auteur a donné lieu à de fausses interprétations et que quelques personnes ont cru voir dans ce passage des tendances à l'universalisme. Rien cependant ne saurait être plus contraire que ces tendances au vu du rêve. Spurgeon, et il suffit de lire la seconde partie de ce discours pour se convaincre qu'il n'est point de ceux qui disent paix. Paix. Quand il n'y a point de paix. Afin de ne laisser aucun doute sur le véritable sens du passage en question, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de transcrire ici quelques lignes d'un autre discours de monsieur Spurgeon avant Leadership, où il explique ses vues sur ce point de la manière la plus nette. Je crois qu'il y aura plus d'âme au ciel qu'en enfer. Si vous me demandez pourquoi j'ai cette croyance, voici ma réponse. Je me réjouis à la pensée que tous les petits enfants, aussitôt qu'ils rendent le dernier soupir, prennent leur essor vers le paradis. Représentez-vous quelle immense multitude de ces jeunes esprits il doit y avoir devant le trône de Dieu. Puis, de meilleurs jours approchent, quand la religion de Christ sera universelle, quand, d'un pôle à l'autre pôle, Jésus régnera en souverain, quand les royaumes se prosterneront devant lui et les nations entières naîtront en un jour à une vie nouvelle. Dans la seule période millénaire, j'estime qu'il y aura assez d'âmes de sauver pour combler tous les déficits des siècles précédents. Nous n'ajouterons rien à cette citation, si ce n'est que monsieur Spurgeon expose simplement ses idées personnelles, libres à chacun de les discuter et de les juger. D'ailleurs, Dieu nous déclare expressément qu'une grande multitude, que personne ne pourra compter, sera sauvée. Combien cette pensée est réjouissante, mes chers amis ! Quelle bonne nouvelle pour vous et pour moi ! Si le salut n'était le privilège que de quelques-uns, nous pourrions craindre, et non sans raison, de ne pas y avoir part, mais puisque le Seigneur affirme qu'une multitude innombrable sera sauvée, pourquoi vous et moi, pourquoi tous, tant que nous sommes ici, ne le serions-nous pas ? Courage donc, pauvre pécheur, qui que tu sois, courage, âme craintive et timorée, ouvre ton cœur à l'espérance. Il n'y a point sur la terre d'âme vivante dont on puisse dire qu'elle soit en dehors de la grâce de Dieu. Il est vrai, quelques infortunés qui, ayant commis le péché irrémissible, sont abandonnés de Dieu, mais à part cette exception, je me plais à le proclamer, la souveraine miséricorde embrasse l'humanité tout entière. Plusieurs viendront et seront assis à table, au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et d'où viendront-ils, ces heureux convives qui prendront place à la table du père de famille? Mon texte nous l'apprend, ils viendront d'Orient et d'Occident. Les Juifs prétendaient que tous viendraient de la Palestine, en d'autres termes, qu'il n'y aurait au ciel personne que ne fût juif. Renchérissant encore sur cette étroitesse de vue, les pharisiens soutenaient que, hors de leur secte, le salut était impossible. Mais voici Jésus-Christ qui tient un tout autre langage, il affirme que de l'Orient et de l'Occident, il viendra des âmes au royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il en viendra, n'en doutons pas, de ces lointaines contrées de la Chine, où le Seigneur semble actuellement ouvrir une si large porte à l'Évangile, il en viendra de notre vieille Europe, comme de la jeune Amérique, des régions tropicales de l'Australie, comme des froides zones du Canada, de la Sibérie, de la Russie. De toutes les extrémités de la terre, il en viendra qui seront assis au banquet de Dieu. Mais outre ce sens naturel, et que j'appellerai géographique, les paroles qui nous occupent me semblent avoir un sens figuré et spirituel. Selon moi, cette expression « l'Orient et l'Occident » désignent moins les points les plus reculés du globe que cette classe d'âmes qui, en apparence, est, pour ainsi dire, aux antipodes du royaume de Dieu. Il y a tels pécheurs dans le monde, du salut desquels chacun désespère. On se dit, à quoi bon raisonner avec eux? Quel bien pourrait-on leur faire? Tout est inutile, ils sont trop dépravés, trop avilis, trop endurcis pour qu'ils puissent jamais être ramenés à Dieu. Ô vous qui passez ainsi condamnation sur quelques-uns de vos semblables, sans vous douter qu'aux yeux de celui qui juge justement, vous êtes peut-être plus coupable que le plus coupable d'entre eux. Écoutez ce que dit Jésus-Christ dans les paroles de mon texte, plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table dans le royaume des cieux. Oui, sachez-le, des dernières limites du royaume de Satan, des derniers degrés de l'échelle du vice, plusieurs viendront qui feront partie de la multitude des rachetés, acquises au prix du sang de l'agneau. Il y aura dans le ciel plus d'un pécheur qui, à une époque de sa vie, s'est plongé dans la fange des passions, il y aura des intempérants, il y aura des femmes de mauvaise vie qui, par la puissance de la grâce divine, renoncèrent, ceux-ci à leur honteux excès, celles-là à leur débordement, et vécurent pendant le reste de leurs jours dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Vous souvient-il d'un remarquable incident du ministère du grand Whitfield? Un jour, prêchant devant un nombreux auditoire, il dit que Jésus-Christ était prêt à sauver même les rebuts du diable, c'est-à-dire les âmes que Satan lui-même trouvait à peine assez bonnes pour lui. Le service fini, son ami, Lady Huntingdon, fit comprendre à l'éminent prédicateur que cette hardiesse de langage ne lui avait point semblé tout à fait convenable. À peine venait-elle de hasarder cette remarque, lorsqu'on vint dire à Whitfield que quelqu'un désirait lui parler. Il y va et remonte un instant après. « Madame, dit-il à Lady Huntingdon, devinez qui m'attendait en bas ? » C'était une pauvre femme, tombée au dernier degré de l'abjection. « Oh ! Monsieur Whitfield, m'a-t-elle dit, vous nous avez assuré que Jésus recevrait les âmes mêmes qui sont comme les rebuts du diable, et moi je suis une de ces âmes. » Cette parole fut le moyen de sa conversion. Que personne ne trouve donc mauvais si les serviteurs de Christ s'adressent aux péagers et aux gens de mauvaise vie. J'ai été accusé, je le sais, d'attirer autour de moi la vile multitude. À cela, je réponds que Dieu la bénisse, cette vile multitude, que Dieu la sauve par mon moyen, et je serai trop honoré. D'ailleurs, si elle est vile, comme on le dit, qui a plus besoin de l'Évangile qu'elle? Qui a plus besoin que Christ lui soit annoncé? Certes, ce qui manque dans notre siècle dégénéré, ce ne sont pas des prédicateurs du grand monde, ce sont des hommes qui portent la bonne nouvelle du salut à ceux que l'on appelle l'allée du peuple. Pour ma part, je trouve dans cette déclaration de mon texte « plusieurs viendront d'Orient et d'Occident », un puissant encouragement à annoncer l'Évangile au plus grand des pécheurs. Je crois, ainsi que je l'ai déjà dit, qu'à l'exception de ceux qui ont commis le péché, contre le Saint-Esprit, note des éditeurs, si le péché contre le Saint-Esprit est un obstacle insurmontable au salut, c'est parce qu'il rend la repentance impossible. Il n'est pas d'homme sur la terre assez éloigné de Dieu pour que la grâce ne puisse l'atteindre. Je crois qu'il n'est pas jusqu'à l'un de ces malheureux, opprobre de l'espèce humaine, flétri, dégradé, abruti presque par le vice, qui, par un effet de la souveraine miséricorde, ne puisse briller un jour dans la gloire, comme la splendeur de l'étendue. Trouvez-moi donc le dernier, le plus vil des pécheurs, je ne dédaignerai point de lui prêcher l'évangile, car je sais que son âme immortelle est susceptible de salut, et de plus, je me souviens de cet ordre de mon maître: va dans les chemins et le long des haies, et presse d'entrer ceux que tu trouveras, afin que ma maison soit remplie. Plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et seront assis à table au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un mot encore dans ce beau passage, sur lequel je désire attirer votre attention, avant de passer outre. Observez qu'il n'est pas dit « ils pourront venir » ou « ils viendront peut-être », mais « ils viendront ». Oh ! Que j'aime ces affirmations si pleines, si positives de mon Dieu. De la part d'un homme, affirmer, c'est presque une dérision. Il promet, et le plus souvent il ne peut tenir sa promesse, il jure, et le plus souvent il viole son serment. Mais avec Dieu, quelle différence ? S'il dit « je ferai », il fera, s'il affirme une chose, elle a lieu. Or, il déclare ici que plusieurs viendront dans son royaume, et quand même Satan s'écrierait avec rage, ils n'iront pas. Quand même leur propre péché leur dirait « vous ne pouvez y aller ». Bien plus, quand ils diraient résolument en leur séant « nous ne voulons pas y aller ». Ils iront, car Dieu l'a dit. Oui, parmi ceux-là même qui aujourd'hui se moquent du salut et insultent à l'évangile, il en est, je ne crains pas de le dire, qui, tôt ou tard, seront amenés captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Mais quoi ? S'écrient peut-être quelques-uns de mes auditeurs, Dieu peut-il faire de nous des chrétiens ? Oui, vous dis-je, et c'est précisément là qu'éclate l'admirable puissance de l'évangile. La grâce divine ne sollicite pas le consentement de l'homme, mais elle l'obtient, elle ne lui demande pas s'il la veut, mais elle lui donne de la vouloir, elle ne s'impose pas à lui, mais elle transforme tellement sa volonté que, reconnaissant sa valeur, il se prend à soupirer après elle et la poursuit jusqu'à ce qu'il l'ait atteinte. Et comment expliquer autrement la conversion de tant d'incrédules qui avaient dit à une époque de leur vie « jamais nous n'aurons rien à faire avec la religion » ? On raconte qu'un jour un impie déclaré entra dans un lieu de culte pour entendre les chants sacrés et qu'aussitôt que le ministre prit la parole, il mit les doigts dans ses oreilles, déterminé à ne pas écouter. Mais au bout de quelques instants, voici qu'un petit insecte vient se poser sur son visage, ce qui l'oblige, pour le chasser, à déplacer une de ses mains. À ce même moment, le ministre prononçait ces paroles que celui qui a des oreilles pour y entendre. Surpris, remué dans sa conscience, l'incrédule écoute et Dieu touche son cœur à salut. En sortant, il était un nouvel homme. L'impie se retira pour prier, le railleur alla verser des larmes de contrition. Celui qui était entré dans la maison de Dieu, par manière de passe-temps, retourna chez lui, pressé de rechercher la communion de son Créateur. Le sceptique devint croyant, le pécheur devint un saint, et la transformation qui s'est produite chez cet homme peut se produire également chez tous. La grâce divine, je le répète, n'a pas besoin de votre consentement préalable, elle saura vous donner la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Du cœur le plus rebelle, qui s'écrie dédaigneusement « je n'ai que faire de l'évangile », elle peut, quand elle le veut, faire surgir cette humble supplication « Seigneur, sauve-moi, ou je péris ». Mais peut-être pensez-vous que vous pouvez vous convertir sans que votre âme subisse l'action prévenante de la grâce de Dieu. Erreur, erreur funeste, mes amis. Supposons qu'en cet instant même Jésus-Christ se présenta au milieu de nous, quel accueil pensez-vous que lui ferait le plus grand nombre ? Nous le couronnerions roi, me répondez-vous ? Hélas ! Je n'en crois rien, je suis persuadé, au contraire, que la plupart d'entre vous le crucifieraient de nouveau, s'ils en avaient l'occasion. Oui, se tint-il là, devant vous, et vous dit-il « me voici, je vous aime, pas un de vous, abandonné à sa propre volonté, ne répondrait à ses avances. » Fixa-t-il sur vous un de ses puissants regards capables de dompter les lions même, vous parla-t-il avec cette voix d'où se sont échappés des flots d'une incomparable éloquence, pas un de vous, laissé à lui-même, ne deviendrait son disciple. Ce qu'il faut pour fléchir les résistances de notre cœur, c'est la puissance de la grâce, c'est l'influence du Saint-Esprit. « Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus-Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Mais une fois que de pauvres pécheurs ont éprouvé ces attraits divins, oh ! Alors, ils viennent, ils accourent de l'Orient et de l'Occident. Que le monde s'agite, que le monde se moque, il n'empêcherait pas le Fils de Dieu de recueillir le fruit de ses souffrances et de sa mort. Si, parmi vous, il est des âmes qui le rejettent, d'autres l'accepteront, s'il en est qui seront perdus, d'autres seront sauvés. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, Jésus-Christ se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans sa main. Quand le ciel, la terre et l'enfer se ligueraient ensemble, il ne saurait retenir loin de Jésus une seule des âmes que le Père lui a données. Et maintenant, toi, mon frère, qui te reconnais le premier des pécheurs, écoute-moi, je suis chargé d'un message pour toi de la part de Jésus. Il y a une âme dans cette assemblée qui se juge la plus indigne qui ait jamais existé. Il y a une âme qui se dit à elle-même « Je ne suis pas digne, que Christ m'appelle à lui. » Âme, c'est toi que j'appelle. Toi, ville, souillée, misérable, aujourd'hui, en vertu de l'autorité que j'ai reçue de Dieu, je te presse d'aller à mon Sauveur. Il t'invite par ma voix, il te cherche, il veut te sauver. À toi donc. Jette-toi à ses pieds. Touche le sceptre de sa miséricorde, afin que tu vives. Va, et c'est de mon Sauveur, te dis-je. Que s'il te rejette après que tu l'as cherché, publie en enfer qu'il a failli à ses promesses. Mais non, cela ne sera pas, cela ne peut pas être. Jamais Dieu ne mettra dehors celui qui vient à lui, car ce serait déshonorer son alliance de grâce. Il ne repoussera pas un seul pécheur repentant, aussi longtemps qu'il sera, écrit dans sa parole, plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table, au royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. De la seconde partie de mon texte est navrante. Autant il m'a été doux de parler sur la première, autant mon cœur se serre devant la pénible tâche qui se présente maintenant à moi. Mais, comme je vous l'ai dit en commençant, les vérités de la Bible doivent être annoncées, qu'elles soient sombres ou lumineuses. Dieu me garde d'imiter jamais ce lâche ministre de la parole, qui disait un jour à son auditoire « Ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ iront dans ce lieu, que la politesse me défend de nommer. Que, penseriez-vous de moi, mes amis, si, voyant une maison en flammes, je disais avec affectation « J'estime que l'opération de la combustion s'accomplit ici près ? Ne devrais-je pas bien plutôt crier de toutes mes forces au feu ?» Au feu. De manière à être compris par tout le monde. De même, lorsque la Bible parle des ténèbres du dehors, de la perdition éternelle, moi, prédicateur de l'Évangile, dois-je jeter un voile sur cette effrayante vérité, dois-je chercher à l'adoucir par des formes de langage? À Dieu ne plaise. Serviteur de Christ, je dois vous exposer clairement tout le conseil de mon maître. Encore une fois, je le reconnais, la déclaration qui va nous occuper est terrible au plus haut point. Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Et d'abord, qui sont ces enfants du royaume, je vais vous le dire? Autrefois, c'étaient les Juifs, aujourd'hui, ce sont ces gens qui possèdent toutes les apparences de la piété, mais qui n'ont rien de ce qui constitue sa force, ces gens, que vous pouvez voir tous les dimanches, leur Bible et leur psaume à la main, se rendant à leur lieu de culte, posément, gravement, dévotement, ces gens enfin qui se persuadent que leur salut est une chose hors de doute, ne considérant pas que leur piété n'est qu'un pur formalisme, où le cœur n'entre pour rien. Voilà quels sont les enfants du royaume. Ils ne possèdent ni grâce ni vie, Christ n'habite point en eux, aussi seront-ils jetés dans ténèbres de dehors. En second lieu, ces mots « enfants du royaume » peuvent s'appliquer à ceux qui ont joui de grands privilèges spirituels, et plus particulièrement aux enfants de parents chrétiens. Vous êtes des enfants du royaume, vous, mes chers auditeurs, à qui Dieu accordait l'inestimable bienfait d'avoir une pieuse mère. Ne vous souvient-il pas du temps où, vous prenant sur ses genoux, elle vous enseignait à bégayer le saint nom de Dieu, où elle vous conjurait de marcher dans les voies de la piété? Et cependant, vous êtes encore, pour la plupart, sans grâce dans le cœur, sans espérance pour l'éternité. Vous descendez, tête baissée, vers l'enfer. Peut-être même tel d'entre vous a-t-il brisé le cœur de celle qui lui donna le jour. Oh ! Qui pourrait dire ce qu'elle a souffert, cette tendre mère, pendant les nuits de débauche du fils de ses prières ? Comprenez-vous, enfant du royaume, combien votre culpabilité sera aggravée si vous périssez malgré les larmes et les supplications d'une mère chrétienne ? Pour ma part, je crois que s'il y a un damné parmi les damnés, ce sera le fils rebelle qui descendra dans l'abîme, poursuivi par le souvenir des prières de son père et le front encore humide des larmes de sa mère. Jeunes gens et jeunes filles qui m'écoutaient, il en est très probablement parmi vous aux désolantes pensées. dont le sort sera-t-elle? Il en est qui? Des ténèbres du dehors où ils seront précipités, apercevront leurs parents dans la gloire, et rencontreront leur regard de reproche, qui semblera leur dire après tout ce que nous avons fait pour vous, comment êtes-vous tombés si bas, enfants du royaume? Vous que Dieu a véritablement traité, comme des fils privilégiés, puisqu'il vous a entouré dès votre berceau de moyens de grâce et de salut, ne vous flattez pas d'être sauvés, par cela seul que vous avez reçu une éducation chrétienne, contracté certaines habitudes religieuses, respiré dans votre famille une atmosphère de piété. Ne vous flattez pas que la ferveur d'une mère, que la sainteté d'un père vous soit imputée. Ne vous flattez pas même que les requêtes qu'ils ont adressées à Dieu en votre faveur vous servent de laissez-passer à la porte du paradis. Non, le salut ne s'obtient que par des efforts personnels. Il ne vous sera pas demandé au dernier jour « A-t-on prié pour toi ?» Mais bien as-tu prié pour toi-même ? Les supplications amoncelées de vos parents, jusqu'à la troisième et quatrième génération, atteignissent-elles les nues qu'il ne vous serait pas possible d'en faire usage comme d'un marchepied pour escalader le ciel ? Si vous ne possédez une piété vivante et expérimentale, vous serez perdu, tous vos amis fussent-ils mille fois sauvés. Bien solennel est le songe qu'une fois une pieuse mère et qu'elle raconta à ses enfants. Elle rêva que le jour du jugement était venu. Les grands livres sont ouverts. Toute l'humanité est devant Dieu. Elle-même, entourée de ses enfants, se tient debout au milieu de la grande assemblée. Tout à coup, la voix du Seigneur Jésus se fait entendre séparer la balle du frement, s'écrie-t-il. Placez les brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Aussitôt, un ange s'avance en disant la mère est une brebis, elle doit aller à la droite, les enfants sont des boucs, leur place est à la gauche. Alors il semble à cette mère que ses enfants cherchent à la retenir. Mère, mère, ne nous quitte pas, s'écrie-t-il avec angoisse. Et elle, les enlaçant de ses bras, leur répond avec larmes mes enfants, que ne puis-je vous prendre avec moi ? Mais à cet instant, l'ange la touche et soudain ses larmes se sèchent. Une force surnaturelle lui est donnée, les liens du sang perdent leur empire et n'ayant plus d'autre volonté que celle de Dieu mes enfants, dit-elle, je vous ai élevé chrétiennement, je vous ai pressé de marcher dans les sentiers du Seigneur, vous ne l'avez pas voulu maintenant que puis-je faire si ce n'est de dire amen à votre condamnation ? Jeune homme, jeune fille, qui vivez loin de Dieu, qu'éprouverez-vous ? Je vous le demande, si ce songe devient jamais pour vous une affreuse réalité. Qu'éprouverez-vous si au dernier jour vous entendez des voix bien connues, la voix de votre père, la voix de votre mère, prononcer un seul anel amen. À cette terrible sentence portée contre vous allez, maudit au feu éternel, préparé au diable et à ses anges? En vérité, je vous le dis, enfants du royaume, les mangeurs et les buveurs, les péagers et les gens de mauvaise vie vous devant ce royaume de Dieu. De grands criminels qui auront pleuré sur leurs péchés au pied de la croix de Jésus seront sauvés, des impies, des blasphémateurs, des pécheurs scandaleux convertis par la grâce de Dieu seront sauvés tandis que plusieurs d'entre vous seront jetés dehors simplement parce qu'ils n'auront pas voulu donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ ni accepter franchement son évangile. Et ne sera-ce pas pour vous la douleur des douleurs, le supplice des supplices, l'enfer de l'enfer, que de voir le premier des pécheurs couché dans le sein d'Abraham, tandis que vous enfants du royaume, fils aînés de la maison, que Dieu avait fait naître, pour ainsi dire, au seuil même du ciel, serait au nombre des réprouvés? Mais prêtez-moi quelques instants encore votre attention, car je dois entreprendre la lamentable tâche de vous décrire le sort affreux réservé à ceux qui vivent et meurent loin de Dieu. Jésus-Christ nous dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Remarquez, en premier lieu, qu'il n'est pas dit ils iront, mais ils seront jetés. Je me représente un enfant du royaume, un hypocrite, un formaliste, arrivant à la porte du ciel.